superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
C'est pas le temps de faire ça.
Mettre mes écouteurs, ça va être plus pratique. Loïc, bonjour.
Salut Benoît.
Bonjour. Alors, on commence évidemment en Ukraine, puis la Syrie de Mariupol, ça va être rasé, là. Ça va être dévasté.
Ça va être rasé, et c'est ce que Poutine a annoncé. Le gouvernement russe, ça étonne tout le monde. D'abord, il reste encore des combattants, semble-t-il, dans la Syrie. On a réussi jusqu'à présent, on sait qu'il y avait à peu près 1730 soldats dans cette Syrie. Il y en aurait d'autres qui seraient là. J'imagine que les couloirs sont piégés, j'imagine que il n'y a pas beaucoup de soldats russes qui veulent entrer là-dedans. Mais la Syrie va être détruite. C'est une Syrie qui employait 10 000 personnes à Mariupol.
Oui.
Tu imagines, ça c'est 10 000 personnes qui travaillaient là, donc imagine les salaires pour la ville, puis tu as tous les contracteurs pour la Syrie. C'est vraiment quelque chose qui est très important dans l'activité économique de la ville. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Alors les Russes disent, c'est parce qu'en fait, 60% des infrastructures de la ville de Mariupol ont été détruites. Ça coûte trop cher de reconstruire tout ça. Et donc, nous, on veut transformer Mariupol en un centre de villégiature, donc pour les touristes, etc. Ce qui va rapporter beaucoup moins que la Syrie. La Syrie, c'est vraiment une industrie qui est industrialisante, qui rapporte des devises étrangères, etc. Donc, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Et je pense que ici, les Russes sont tombés dans un piège classique dans les guerres, c'est-à-dire que quand on détruit trop son ennemi, trop le territoire ennemi, ça devient un fardeau, parce qu'on a trop détruit, puis on ne peut plus rien faire avec ça.
T'as brûlé.
C'est une guerre pour rien.
Ouais.
Et dans ce cas-ci, c'est une grave erreur d'avoir fait ça à Mariupol, d'avoir à ce point détruit Mariupol que maintenant, ben, on ne peut plus l'utiliser.
Est-ce que ça se peut là, que les Russes constatent que les Ukrainiens sont plus coriaces qu'ils avaient pensé et que là, ils vont s'en tenir à la bordure de la frontière avec la Russie, là, la Crimée puis Mariupol?
Oui. C'est ce qu'on pense. Pour la première fois, on entend des choses qui laissent entendre. Par exemple, les Russes ont conquis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui produit de l'énergie, de l'électricité. D'accord. Alors ils disent, désormais, nous allons envoyer cette électricité-là en Russie et nous allons vendre aussi de cette électricité en Ukraine. Mais c'est la première fois que les autorités russes parle de l'Ukraine comme d'une entité qui va continuer à exister. Puis on se dit, est-ce que ça voudrait dire, ça, que les Russes commencent à considérer qu'ils ne seront pas capables de conquérir toute l'Ukraine, en tout cas pas pour le moment. Même chose avec les territoires que les Russes occupent. Ils disent aux citoyens de ces territoires-là, vous voulez de l'eau? Vous voulez de l'électricité? Vous voulez des transports, etc.? Ben, mes petits amis, il va falloir que vous collaboriez avec nous. Sinon, vous n'aurez rien. Et ici aussi, on sent le chantage. Ça signifie, ça aussi, sous-entendu, puisqu'ils l'ont dit en public, on voit bien que les Ukrainiens ne coopèrent pas avec les Russes, que les Ukrainiens sont pas du tout ravis que les Russes soient là, au contraire. Et ça aussi, c'est un changement. Et j'ai hâte de voir comment ça va passer dans l'opinion publique russe, parce que les Russes sont pas bêtes. Ils vont bien voir que on parle toujours de l'Ukraine au complet. Ils vont bien voir que les Ukrainiens sont vraiment mécontents que les Russes soient là. Et ça, c'est un changement, je pense, qui est en train de se produire à l'intérieur même de toute l'orientation de la politique et de la guerre de la Russie dans la région. Puis tiens, dernière nouvelle sur l'Ukraine qui est quand même aussi intéressante. Il y a un commandant monsieur Sergueï Kissel, qui était le commandant de la première armée d'élite motorisée, qui était supposé conquérir Kharkiv. Eh ben, suivant ce que pensent les services de renseignement britanniques, il a été démis de ses fonctions, il a été limogé parce que il n'est pas parvenu à conquérir Kharkiv. Donc on est en train encore, on continue à essayer de trouver des boucs émissaires à l'intérieur de l'armée russe. Ça marche pas bien, l'armée fonctionne pas bien, on voit bien que l'armée est pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'elle. Donc raison de plus pour cesser l'attaque. Donc je pense qu'ils vont essayer de conquérir le Donbass, consolider le sud, ce couloir donc entre la Crimée et la Russie. Puis pour le reste, ça va être à la prochaine fois.
Puis c'est un moment parfait pour la Finlande et la Suède de se joindre à l'OTAN.
Ben bien sûr. Et ils sont, d'ailleurs, les représentants du premier ministre de Finlande et de Suède ont vu Biden ce matin à Washington, le rencontrer. Et Biden, d'ailleurs, a minimisé, d'abord il les a accueillis, a dit qu'ils étaient prêts, qu'ils étaient tout prêts à rentrer dans l'OTAN, que les États-Unis favorisaient leur candidature. Et quand on a posé la question de la Turquie, parce qu'évidemment Erdogan dit non, il n'y en a pas question, comme on en a déjà discuté, Erdogan prétend que la Finlande et la Suède abrite des organisations terroristes, en fait c'est des Kurdes, des opposants kurdes. Biden a minimisé ça en disant non, on va s'en occuper, là on va négocier ça. Et puis c'est d'ailleurs aussi ce qu'a dit monsieur Stoltenberg, qui est le commandant de l'ONU, général qui commande l'ONU, a dit oui, c'est normal qu'il y ait des divergences. Il a minimisé ça, et donc tout le monde semble penser que ces deux pays là vont entrer dans l'OTAN cet été.
Et puis en même temps, là, faut surveiller ce qui se passe en Asie. Là. La Chine, c'est des snoreaux.
Ah, tu fais bien de le mentionner. En Asie, il est en train de se... d'abord, il y a Biden qui partait aujourd'hui pour une grande tournée au Japon, en Corée du Sud. Et son objectif, c'est effectivement de renforcer les alliances là-bas. Il va rencontrer le président sud-coréen. Et c'est possible d'ailleurs qu'à ce moment-là, Kim Jong-un fasse exploser une bombe atomique, souterraine, fasse un essai atomique. Il semble qu'il ait préparé ses installations pour ça. Ça détournerait l'attention, ça enlèverait de la publicité à Biden. Puis ça détournerait l'attention pour sa propre population, d'épidémie de COVID-19 qui est en Corée du Nord, on en a parlé. Donc, il y a ça qui est en train de mijoter dans ce coin-là. Il va aussi aller au Japon, rencontrer le premier ministre japonais. Et donc, il va parler d'échanges de haute technologie, de renforcement de la défense. Et il va aussi parler de l'intégration des chaînes de production, parce que on n'est pas content de ce qui s'est passé en raison de la pandémie. Tu sais, la Chine a arrêté ses usines. Elles sont arrêtées encore en partie dans toute la région centrale autour de Shanghai. Ça fait mal à l'économie mondiale. Donc, on veut plus que les chaînes de production mondiales dépendent d'un seul joueur, d'un seul pays. On va essayer de diversifier tout ça. Donc, ça aussi, c'est dans les cartes. Et remarque que Biden a fait la même chose avec l'Europe aussi la semaine dernière. Donc, c'est très, très important. Mais aussi, ce qu'il vient dire, c'est à la Corée du Nord et à la Chine, c'est attention. Surtout à la Chine, essayez pas d'envahir Taïwan, et à la Corée du Nord, essayez pas de jouer au plus fin avec la Corée du Sud. On va se tenir debout. Et regarde, vous avez vu ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie? Ça serait rien comparé à ce qu'on vous ferait si jamais vous essayiez d'envahir Taïwan, etc. Donc, il renforce les alliances dans la région. On verra ce qui va arriver. D'ailleurs, il va rencontrer le Quad. Le Quad, c'est cette alliance entre l'Australie, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon. C'est une alliance contre la Chine. Ils vont se rencontrer à Tokyo. Je pense bien que c'est à Tokyo. Enfin, ils vont se rencontrer au Japon. On va voir ce qu'ils vont discuter aussi. Note en passant qu'on ne sait pas qui il va rencontrer, parce que il y a des élections, enfin en Australie, qui va rencontrer comme premier ministre australien, parce qu'il y a des élections ce samedi en Australie, et on ne sait pas très bien qui va gagner. On s'en reparlera la semaine prochaine de ça, d'ailleurs.
Alors, pourquoi pas envahir l'Iran tant qu'à y être?
T'as des bonnes idées.
Ben oui, je suis là pour aider, moi.
En général. Oh là là. L'Iran, ça va mal aussi. Alors ça fait longtemps que ça va mal. La population iranienne n'aime pas du tout le régime des Mollahs qui est là. Elle déteste ce régime. Et en fait, ça a failli tomber déjà au début des années 2000, mais stupidement, Bush a envahi l'Irak. T'as vu d'ailleurs la gaffe qu'il a faite.
Ben oui.
Je sais pas si t'as vu ça.
Ben oui.
Il voulait parler de l'Ukraine. Et alors, c'était complètement idiot. C'était complètement irresponsable.
Un homme.
Ouais. D'envahir. Et alors, on s'attend à ce qu'ils disent d'envahir l'Ukraine. Ouais. Et dit d'envahir l'Irak.
Ben oui.
Non, l'Ukraine.
Ouais. Short attention span. Pas capable de se concentrer, ben.
Et ça n'a pas fait plaisir en Irak. Hein. Je dis que ce lapsus-là n'est pas passé inaperçu. Ouais. Mais bon, je reviens à l'Iran.
Ouais.
Ça va mal en Iran. Les gens en ont vraiment marre de ce régime qui est hyper corrompu. Les mollahs gardent l'argent pour eux. Tu sais, évidemment, eux vivent dans l'opulence. Et en ce moment, il y a un problème très grave avec l'alimentation. Les prix ont augmenté de 300% pour tout ce qui touche, par exemple, le blé. Alors, les gens sont descendus dans la rue, dans plusieurs villes, dans plusieurs provinces, et il y a eu des heurts avec la police, des heurts violents. On sait qu'il y a eu des morts et des blessés. On ne sait pas combien encore, parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes. Mais on se souvient qu'il y a déjà eu des confrontations en 2019. Et à l'époque, en 2019, le régime avait admis 300 morts. Amnesty International pense qu'il y en avait eu 1500. Donc, on se retrouve en ce moment dans la même dynamique où les gens descendent dans la rue, et non seulement ils demandent à ce que les prix baissent, parce que le gouvernement a décidé en plus de cesser de subventionner les prix, tu sais, en pleine inflation mondiale, c'est très très intelligent comme, comme politique, n'est-ce pas? Mais en plus, les gens disent, ça suffit, nous on veut la liberté. On veut la liberté, des libertés politiques, des libertés publiques, on veut la fin de la République islamiste. Et plus que ça, ils ont brûlé des images des principaux dirigeants.
Ouh.
Donc ça chauffe beaucoup, beaucoup.
Ça, c'est courir après le trouble. OK, et puis en conclusion, rapidement, ce qui se passe au Japon, Loïc?
Il y a un gars qui a reçu par erreur une allocation dans une petite ville qui s'appelle Abu, de l'équivalent de 460 000 dollars canadiens. Il devait recevoir 1000 dollars parce qu'il était pauvre, puis il a reçu 4 600. Alors évidemment, petite municipalité, tout le monde se connaît. Tout de suite, les fonctionnaires vont chez lui et disent « Écoute, t'as reçu un chèque. Oui, oui, je vais vous redonner l'argent, pas de problème. » La municipalité ne reçoit pas l'argent. On lui envoie des lettres. Finalement, les gens se présentent à son travail et disent « Écoute, tu nous dois de l'argent. Là, tu nous dois 460 000 dollars. » pardon. Et le gars dit « C'est parce que je l'ai joué au casino. »
Oups, là.
Oups. Mais il dit, c'est pas grave, je vais vous rembourser petit à petit. Oui, mais il gagne pas assez d'argent pour rembourser petit à petit. Et la municipalité, la petite municipalité est submergée de téléphones de sa population, de gens qui sont pas contents. Il dit, comment ça vous avez donné 460 000 $ à quelqu'un comme ça par erreur? Alors, la municipalité, s'il vous plaît, cessez de téléphoner, là. Non, on n'aime pas ça. Cessez de téléphoner.
Ouais, mais c'est cher payé, hein?
Je trouve que c'est une erreur qui est cher payée, en effet.
Parfait. Merci, Loïc. On se reparle demain.
Salut, à demain.